Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Jour premier.
C'est l'histoire de la vague MeToo qui s'en prend petit à petit au modèle hétéro de base, le questionne, le torpille. Des femmes ont parlé de violence, mais pas seulement. Il y a les tâches domestiques, le modèle éducatif, la charge mentale. Non, le couple n'échappe pas au rapport de domination. On espérait que l'amour allait être un lieu de refuge, protégé du monde extérieur. Et puis on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Alors, sur ce champ de ruines, comment nous aimer? Comment réinventer l'amour? Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine La maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyse scientifique. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui, avec de vraies histoires d'amour. Dans cet épisode, l'histoire d'un couple après la vague qui nous invite à regarder l'amour entre un homme et une femme pour ce qu'il est.
Thomas, c'est quelqu'un qui aime dans la sexualité les relations de domination-soumission. Et donc, je m'y prête au début, mais assez rapidement, je lui en parle. Mais je lui en parle en pleurant. Je lui dis, en fait, je peux pas. Je me sens mal, je me sens salie par ce qu'on fait. J'ai l'impression que tu m'aimes pas quand on couche ensemble comme ça. Quand je rencontre Thomas, j'ai 19 ans. Je suis en première année d'école de commerce, je sors de 2 années de prépa. Première impression, plutôt chouette parce que je sens que comme moi, il n'est pas totalement dans son environnement, qu'il se sent en décalage et donc ça nous rapproche assez rapidement. Moi, à ce moment-là, je suis en couple, donc je ne suis pas intéressée par lui. Et puis, par ailleurs, il a un style un peu intello qui n'est pas mon style à ce moment-là. Il porte des chemises, il a des petites chaussures de ville, il n'a pas du tout l'uniforme jean basket des autres mecs. Et il a une espèce de distance un peu cynique par rapport à la vie de l'école de commerce qui me fait rire et qui me fait me sentir proche de lui. Je dirais qu'on ressent tous les deux une espèce de manque de profondeur de la part des personnes qu'on fréquente. Pas mal de sexisme, des comportements qu'on valide pas, des soirées où il y a beaucoup de slut-shaming, où on va venir reprocher aux filles de choper des garçons en soirée, où on va tenir le compte des shops et des coucheries de chacun et chacune, où il y a une espèce de police des mœurs absurde que j'avais jamais connu en fait dans ma vie de lycéenne. Donc tout ça fait que il me plaît amicalement et que je me sens bien avec lui, mais à ce moment-là, je suis pas du tout intéressée parce que je suis en couple avec quelqu'un d'autre avec qui je me sens bien. Je me sépare de mon copain de l'époque vers début décembre. Donc en fait, 3 mois après être entrée en école de commerce. Et Thomas, lui, se sépare également de sa copine de l'époque, mais un peu plus tôt que moi. Donc en fait, début décembre, on est tous les deux célibataires, ce qui au début n'a pas d'impact sur notre amitié. Et en fait, on passe même les mois suivants, je crois, 3 mois, toujours dans cette amitié qui est chouette et qui pour moi est un safe space parce que je ne me sens pas prédatée. Je sais pas si ça se dit. Je me sens pas prédatée par lui dans ma relation, ce qui est mon ressenti avec une majorité des mecs que je côtoie en école.
Alors prédation, il me semble que c'est un mot qui vient du vocabulaire cynégétique de la chasse des animaux par eux-mêmes, c'est-à-dire les prédateurs, c'est des animaux qui chassent d'autres animaux.
Mélanie Gourarier.
Et c'est important, c'est pas anodin d'utiliser ce terme pour qualifier les rapports hétérosexuels.
Anthropologue.
Ça marque aussi un espèce d'imaginaire, en tout cas de l'hétérosexualité, qui serait autour d'une forme de d'essentialisation en fait des désirs masculins, qui serait tellement puissant que du coup les femmes se sentiraient comme des proies. Donc c'est tout un contexte qui est produit par des décennies, voire des siècles, en fait, d'une construction très patriarcale de l'hétérosexualité, qui produit un sentiment d'inquiétude, en fait, dans les rapports hommes-femmes, puisqu'on ne sait jamais si on n'est pas en train de vivre une scène de séduction, en fait. Et toutes les relations hommes-femmes sont traversées par cette question-là et cette volonté, peut-être, la plupart du temps, de neutraliser ces rapports-là. C'est-à-dire que rentrer en interaction avec un homme quand on est une femme et a fortiori une jeune femme, c'est, en fait, passer son temps à neutraliser l'ambiguïté de la relation hétérosexuelle. Quand on travaille sur l'hétéronormativité ou sur la masculinité, la plupart du temps, on nous renvoie dans des espaces, des classes populaires où la masculinité, elle serait plus visible, elle serait plus problématique. En faisant ce choix-là, d'aller écouter un récit qui se passe dans une école de commerce, ça montre à quel point, en fait, la masculinité hégémonique, elle est problématique dans cet espace-là aussi, et je dirais même surtout. Alors pourquoi surtout ? Parce que là, on a vraiment, dans les écoles de commerce, une reproduction sociale qui est en action, et qui est en action au sein d'une classe qui est déjà la classe moyenne et supérieure. Donc celle qui détient le pouvoir, en fait, en France en tout cas. Et le récit d'Ariane montre que c'est un moment particulièrement important de mise en conformité avec un groupe.
Un soir, pendant les vacances de février, on passe une soirée ensemble, on va boire des verres avec des potes, on est tout bourré, on s'amuse, on quitte la soirée tous les deux, on prend sa voiture et on va sur un parking désert. À ce moment-là, moi, j'ai pas mon permis, j'ai jamais conduit de voiture, mais je me mets sur le siège conducteur. Et il me fait conduire sur le parking avec Joe le taxi à fond dans la voiture et on se marre. C'est, je crois, un des meilleurs souvenirs de notre amitié que j'ai. Et on rentre chez moi et là, je me rends compte que c'est la première fois qu'il vient dans mon appartement. Je me sens gênée, comme si il était rentré dans mon intimité. On va se coucher et il se passe rien, juste on dort. Ça me touche beaucoup parce que ça me donne la conviction qu'il tient à moi, qu'il n'a pas envie de passer du temps avec moi juste pour coucher avec moi et que... Pour moi, qui évolue donc en école de commerce, dans un environnement où je me sens hyper sexualisée par les mecs tout le temps, C'est juste un énorme soulagement de pouvoir dormir avec un mec sans qu'il tente rien. À ce moment-là, il y a quelque chose qui change, effectivement, dans la manière dont je le perçois, avec voilà, le fait qu'il est chez moi, qu'on est tous les deux, qu'il est dans mon lit. Il se passe rien, mais je sens que ça fait shifter quelque chose dans ma manière de le percevoir, comme l'ouverture d'une possibilité. Donc à ce moment-là, c'est les vacances. Donc en fait, quand on se réveille le lendemain, on n'a pas cours, on n'a rien d'autre à faire que de passer la journée ensemble. Et en fait, il reste 3 jours chez moi. On passe 3 jours à regarder des séries, discuter, faire la sieste. Je me rappelle qu'on sort quand même pour aller au resto. Mais on passe vraiment 3 jours en full intimité. Et c'est à l'issue de ce temps très intime qu'on passe ensemble, qu'on s'embrasse et qu'on couche ensemble pour la première fois. Donc on couche ensemble, mais on se met pas tout de suite ensemble. Pendant 3-4 mois, en fait, on est comme sex friends. On se dit qu'on n'est pas ensemble, mais l'un comme l'autre, on a envie d'être les seuls partenaires sexuels de l'autre. Thomas, c'est quelqu'un qui aime dans la sexualité les relations de domination-soumission. Moi, à ce moment-là, je pense pas savoir que c'est quelque chose que j'aime pas. En tout cas, je l'ai pas intellectualisé, mais je me sens pas à l'aise dans cette performation en fait de la soumission, en l'occurrence, parce que lui, ce qu'il aime, c'est plutôt dominer, et ce qui l'attend de ses partenaires, c'est le jeu de la soumission. Et donc, je m'y prête au début parce que j'ai envie qu'il apprécie le sexe avec moi, que c'est mon ami et que donc j'ai envie qu'il se sente bien dans la relation sexuelle. Mais assez rapidement, je sens que ça me met mal à l'aise. Et donc, je dirais qu'au bout peut-être de quelques semaines ou 2-3 mois, je lui en parle. Mais je lui en parle en pleurant. En fait, à un moment, je pense, où on couche ensemble et où en fait, j'arrive plus à faire semblant parce que ça me coûte trop. Et où je lui dis, en fait, je peux pas, je me sens mal, je me sens salie par ce qu'on fait, je me sens... J'ai l'impression que tu m'aimes pas quand on couche ensemble comme ça. Et lui, il tombe des nues parce que je l'avais jamais exprimé. Et je pense qu'il était à ce moment-là pas très à l'écoute non plus, probablement. Mais à partir du moment où je lui dis, en fait, j'y arrive pas, ça me convient pas, on se met réellement à inventer une sexualité qui nous convient à tous les deux. Il y a de l'écoute, des questionnements et de la créativité qui rentrent dans l'équation. C'est concomitant, il me semble, avec le moment où on se dit qu'en fait, on a envie d'être ensemble.
Ce sur quoi j'ai envie de réagir, c'est surtout cette façon dont les choses n'ont quasiment pas été discutées et où les fantasmes et le monde fantasmatique de Thomas va venir l'emporter, en fait, sur ce qui est décrit comme une absence de monde fantasmatique, ce qui n'est absolument pas le cas. Personne n'a un monde fantasmatique vide, il y a toujours quelque chose. Et finalement, c'est presque un allant de soi, enfin, ça va de soi, qu'on suive ou qu'une jeune femme endosse les désirs de l'autre et que l'autre, le garçon donc, ne réfléchisse pas à la symétrie ou la réciprocité de son monde l'équivalence de son monde fantasmatique. Elle met beaucoup de temps pour se rendre compte que finalement, ça ne lui convient pas. Et pourquoi est-ce qu'elle met autant de temps à se rendre compte que ça ne lui convient pas? Parce que sa sexualité, elle la conçoit comme étant relationnelle dans la construction du couple, en fait. Et c'est là, à mon avis, un des nœuds du problème. C'est cette conception, cette prise en charge par les femmes d'une sexualité hétérosexuelle dans le sens premier, c'est-à-dire, dans le sens très pratique, c'est-à-dire une sexualité qui fait fonctionner le couple hétérosexuel, qui a pour fonction de le cimenter. Donc aussi l'idée que la sexualité serait le lieu de la relation, de ce qui permet d'entrer en relation profondément, et du coup de ne pas s'interroger sur, finalement, d'entrer en hétérosexualité suivant des fantasmes singuliers, propres et qui ne sont pas relationnels. C'est-à-dire comment faire l'amour avec un homme sans être relationnel. C'est à mon avis une des questions clés pour peut-être transformer ces rapports très hétéronormatifs dans l'hétérosexualité.
À ce moment-là de nos vies, lui, il a beaucoup d'amis filles, moi, beaucoup d'amis garçons. Donc, il y a un peu de jalousie, un peu d'insécurité qui existe du fait de nos situations amicales respectives. Mais en réalité, assez rapidement, on fusionne. On prend de la distance l'un comme l'autre avec nos amis de l'époque. Et on se retrouve à passer beaucoup, beaucoup de temps tous les deux. Les autres, en fait, ne comptent plus, n'ont plus d'importance. On n'en a plus besoin à ce moment-là. C'est un peu la lune de miel de notre relation. Et on se retrouve tous les deux. Et du coup, il n'y a plus trop d'insécurité parce qu'on est l'un avec l'autre pratiquement H24. Au bout d'un moment, on sort naturellement de cette dynamique hyper fusionnelle de début de relation. Moi, je ressens de nouveau le besoin de passer du temps avec mes amis. Je dirais au bout peut-être d'un an et demi, ou un an et demi, deux ans de relation, je me remets à voir de manière beaucoup plus fréquente mes amis, à passer des soirées avec eux, et donc moins avec Thomas. Il le vit pas bien, parce que il a pas la même conception de l'amitié que moi, à ce moment-là de sa vie. Pour lui, l'amour, c'est au-dessus de tout, et notamment au-dessus de l'amitié. C'est comme s'il y avait une hiérarchie de l'amour. Moi, au contraire, j'ai besoin de mes amis pour me sentir équilibrée et de plus faire de ma relation amoureuse le centre absolu de ma vie.
Moi, ce que j'entends dans cette histoire de fusion, hein, c'est un mot un peu comme ça aussi très à la mode pour qualifier un phénomène social qui a été travaillé par exemple des sociologues comme Isabelle Clerc ou Florence Maillochon, qui ont travaillé sur les jeunes et l'amour. La plupart du temps, la fusion, c'est en fait une façon qu'ont les femmes de se retirer petit à petit, en fait, de leur groupe social initial, familial et amical, géographique, et les hommes de s'ancrer, en fait, dans leur région affective, pour le dire de façon plus globale. Et ça a un effet extrêmement important sur les inégalités hommes-femmes, en fait, puisque ça fragilise énormément les femmes. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve, alors, beaucoup à la jeunesse, mais qu'on va retrouver à tous les âges dans la formation des couples. Et cet isolement-là, en fait, ça va aussi participer à les faire entrer d'une certaine façon dans le couple qui va devenir le seul lieu, un des seuls lieux de leur réalisation. Et ça se traduit, je vais donner un exemple assez basique, mais par la délocalisation. Hein, les femmes quittent souvent leur appartement pour rejoindre l'appartement de leur compagnon qui peut se trouver dans une autre ville. Donc en cas de séparation, s'il n'y a pas contrat, on part souvent une main devant, une main derrière, on n'a plus rien. Et ça, c'est ce qui fragilise énormément les femmes.
Je sens à ce moment-là en fait que notre fusion, elle me cause du tort parce qu'elle me prive d'une certaine liberté de mouvement et d'agir. Et ça devient hyper important pour moi de me décentrer et de retrouver en fait d'autres relations amicales et de plus faire de ma relation amoureuse le centre absolu de ma vie. C'est une situation qui dure vraiment peut-être 2-3 ans en vrai. Alors avec des hauts et des bas. Mais c'est quelque chose qui devient également assez constitutif d'une période de notre relation amoureuse où mes sorties à moi sont problématiques. Enfin, c'est un sujet de tension régulier. Et je crois jusqu'au jour où on s'engueule à ce sujet et je me rappelle très bien, on se pose tous les deux sur le canapé. Et je lui dis, en fait, je peux pas être heureuse sans mes amis. Et si tu m'enlèves ça, je peux pas être heureuse avec toi. Et on peut pas rester ensemble. Il a un petit temps de flottement. Et il me dit, ok, ben j'ai compris. Et c'est ok pour moi. Et ça, à partir de ce soir-là, où on en a parlé, ça n'a plus jamais été un problème.
la discussion, en fait, est systématiquement amenée, j'ai l'impression, par Ariane. C'est assez caractéristique de l'hétéronormativité. Enfin, c'est un truc qui fait fonctionner l'hétéronormativité. C'est finalement la façon dont les femmes vont prendre en charge globalement le travail du couple, donc le travail... je dirais domestique, le travail social, s'occuper des sociabilités du couple. Mais on voit aussi maintenant poindre en plus avec les nouvelles normes où les hommes devraient exprimer leurs affections, leurs émotions, la prise en charge émotionnelle du couple. C'est-à-dire que pour que le couple fonctionne, il faut faire des points régulièrement pour dénouer des problèmes de communication, hein, ce qui est le cas de toutes les relations. Mais dans le couple hétérosexuel, c'est fait très largement à la charge des femmes qui, par ailleurs, sont souvent affublées du qualificatif de chieuse ou d'emmerdeuse, hein, parce que quand même, vouloir dénouer les problèmes, c'est du coup les mettre sur la table. Et du coup, c'est à la fois le lieu d'un pouvoir d'agir, mais aussi le lieu de leur stigmatisation plus largement dans le monde social. Et par ailleurs, le lieu d'une fatigue en plus supplémentaire, puisque c'est une prise en charge aussi d'un travail encore à faire sur les émotions du couple. Et maintenant, avec les, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, nouvelles masculinités qui se disent capables d'exprimer leurs émotions, il faut en plus se substituer aux psychanalystes, puisque les femmes écoutent maintenant leurs compagnons et prennent en charge ce travail-là encore. Donc, ce dont on se rend compte finalement, c'est que dans l'hétérosexualité, il y a une, on n'a pas forcément affaire à une amélioration du rapport égalitaire, mais plutôt à une forme d'accumulation de travail nouveau en fonction des nouvelles normes du couple hétérosexuel. Et ça, je trouve ça particulièrement important de le travailler et de le dire, parce qu'on a tendance à imaginer que avec ce qu'on peut appeler un tournant émotionnel, on pourrait penser qu'on va vers des meilleures relations, mais ça s'accompagne systématiquement d'un travail supplémentaire pour les femmes.
À peu près à la même période, donc je dirais que ça fait 5 ans qu'on est ensemble à ce moment-là, on commence à avoir autour de nous des couples d'amis qui se séparent, majoritairement pour des histoires d'infidélité et de tromperie. Et on se dit... ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ce serait vraiment trop bête que notre relation parte en fumée alors qu'on s'aime autant, juste pour une histoire d'infidélité. À ce moment-là de notre relation, on commence à prendre conscience qu'on peut être hyper amoureux de quelqu'un et quand même ressentir du désir sexuel, de l'attraction pour d'autres personnes complètement étrangères au couple. En fait, on est des humains, c'est probablement pas possible de désirer une seule personne pour toute sa vie. Et finalement, cette attraction pour d'autres personnes, elle remet pas en cause l'amour qu'on se porte l'un pour l'autre. Et on commence chacun en plus à l'expérimenter un petit peu. À se dire, bah oui, tel collègue, il y a un feeling, ou tel pote, ou telle personne rencontrée en soirée. On commence... à se dire peut-être que l'exclusivité, en fait, c'est pas une solution durable et que peut-être se laisser plus de liberté et s'ouvrir, accepter, en fait, l'existence de désir peut être une manière de faire durer notre couple. Et on en parle un été. On est sur la plage, tous les deux, allongés sur nos serviettes. Et bon, c'est en plein après-midi. On a hyper envie l'un de l'autre. On s'embrasse, mais dans la limite de ce qu'on peut faire pour pas faire de l'exhibitionnisme sur une plage, quoi. Et la discussion vient à ce moment-là. L'un comme l'autre, on est enthousiasmés par cette perspective parce que on est à un stade où on se fait hyper confiance et où on a envie d'expérimenter et d'explorer ensemble d'autres manières de vivre le couple.
Ce que je trouve assez intéressant, c'est comment cette question-là d'ouverture du couple, en fait, elle est structurée autour du désir du couple. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce qui n'est jamais discuté dans les questions polyamoureuses, c'est finalement à quel point ce qui compte, c'est le couple. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit bien que dans le récit qu'ils font, ils tirent une excitation sexuelle de cette idée d'ouverture du couple. Mais cette question d'ouverture du couple, il faut la penser, là je le place à une échelle historique en fait, de la façon dont on conçoit ce qui fait famille, ce qui fait relation, ce qui fait couple. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a un renforcement depuis plusieurs dizaines d'années, et ça va sans doute s'accentuer à l'avenir, de la cellule du couple, qui est la cellule reine, et que tout se constitue autour de cette cellule-là. Et peu importe finalement ce qui va arriver dans cette histoire de couple, il faut le faire tenir. Et ce qui est intéressant et qu'on envisage assez rarement, c'est les relations parallèles sont pensées uniquement et en fonction et en vertu de ce qui va arriver à l'intérieur du couple. Autrement dit, il y a peut-être aussi quelque chose qu'il faut envisager, c'est l'instrumentalisation de tiers pour faire fonctionner en fait une institution qui est l'institution couple, qui est l'institution hétérosexuelle.
Quelques mois se passent, on est en octobre. C'est un dimanche après-midi, on se réveille d'une sieste, on avait bien mangé, on est cool, et il fait beau dehors. Et puis Thomas me dit qu'il est pris de vertige, et il se redresse et il me dit « Je suis en train de faire un AVC, faut que t'appelles les urgences ». On lui avait diagnostiqué quelques années plus tôt, au détour d'une IRM de contrôle, une malformation dans le cerveau, dont du coup le risque principal était l'AVC. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'il va falloir l'opérer de sa malformation, sauf qu'ils ne peuvent pas l'opérer directement. Donc il faut attendre à peu près 4 mois, le temps que l'hémorragie se résorbe et qu'il puisse voir ce qui se passe dans son cerveau pour l'opérer. Il rentre à la maison au bout de quelques jours, une fois que les médecins sont certains que sa situation est stabilisée. Sauf qu'il est extrêmement affaibli, extrêmement fatigué. Il garde de cet AVC une fatigue chronique terrassante. Les premières semaines, il peut à peine sortir de son lit pour manger. Il ne peut pas avoir de discussion prolongée avec moi, ni avec qui que ce soit d'autre. Il ne peut pas sortir de la maison. Toutes les stimulations du monde le fatiguent à un point qui est inimaginable quand on n'a pas vécu ça. Une des choses que j'aime chez Thomas, c'est sa force de vie, sa détermination, sa volonté, sa force physique, ses capacités sportives. C'est des choses que j'admire énormément chez lui. En un claquement de doigts, il se retrouve privé de ça. Il me dit qu'il a peur, il pleure dans mes bras, il me fait part de ses doutes, et ça me touche énormément parce que je connais pas cette facette de lui. Et en fait, dans cette vulnérabilité, je le trouve hyper fort, hyper courageux. Je retrouve à un autre endroit de lui, ce qui fait en partie que je suis amoureuse de lui.
La question de la vulnérabilité, c'est une question extrêmement importante, notamment dans les études de genre. Par exemple, avec les travaux sur les questions du care, CARE, du soin, il y a tout un champ des sciences, enfin des études qui se sont faites à travers cette question de penser ce que c'est qu'un sujet vulnérable, autrement dit, en miroir surtout, c'est défaire cette idée en fait de sujet puissant, fort, valide. Donc ça, c'est un point important que je voudrais pas réduire en fait à cette question-là d'une expression masculine de la vulnérabilité, parce que les sujets vulnérables, la plupart du temps, sont les minoritaires. Ce qui est intéressant peut-être dans ce récit-là, et c'est là qu'on voit qu'elle est peut-être Ariane traversée par les études de genre, c'est l'importance qu'elle accorde à la force de la vulnérabilité. Ce récit-là d'une maladie peut-être rappeler une réalité sociale plus large qui dépasse l'histoire de ce couple, c'est que dans la majorité des cas, quand une femme tombe malade, son compagnon la quitte. C'est un des fléaux, je dirais, du cancer du sein, par exemple, puisque en plus d'avoir à subir la maladie et les effets du traitement, les femmes se retrouvent seules, parfois à s'occuper de leurs enfants. C'est absolument pas le cas quand un homme tombe malade, et là on l'entend très bien dans ce récit, où les femmes restent aux côtés de leurs compagnons, voire trouvent des vertus particulièrement morales de ce nouveau sujet masculin affaibli. Et donc ça, c'est une vraie inégalité entre hommes et femmes, c'est en fait la différence dans les couples du rapport aux soins.
Un an après son accident, il a quasiment complètement recouvré ses forces. Il a encore un petit peu de fatigue chronique, mais la situation est pratiquement redevenue telle qu'elle était avant. En ce qui concerne les pratiques de domination-soumission, ça disparaît progressivement de nos dynamiques de sexualité, jusqu'à ce que j'y revienne ponctuellement, mais en me sentant pleinement libre et en ayant pleinement envie. On se reparle d'une éventuelle ouverture de couple. On laisse la porte ouverte pour l'instant. On n'a pas encore franchi le pas. Déjà parce que en fait, on est retombés très 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 amoureux l'un de l'autre suite à cette épreuve et qu'on ressent beaucoup moins le besoin, le désir d'aller voir ailleurs. Et aussi parce que de mon côté, je trouve que la population masculine est pas hyper chouette quand il s'agit de drague et de séduction. Bon, évidemment, je continue d'aller en soirée, donc je me fais draguer, je rencontre des mecs. Je trouve que leur manière d'interagir, leur refus du non, leur ego mal placé fait que c'est tout le temps pénible d'interagir avec des mecs dans une relation de pseudo-séduction. Donc, j'ai pas spécialement envie, à l'heure qu'il est, d'ouvrir cette porte-là, quoi. Clairement, aujourd'hui, je sais que c'est l'homme de ma vie. J'avais pas cette certitude du tout quand on s'est mis ensemble. Il y a 7 ans, je me suis mise en couple avec un mec que je trouvais beau, qui était sympa, avec qui j'avais noué une belle relation d'amitié. Et là, 7 ans plus tard, je peux dire que je suis avec l'homme de ma vie et que j'ai envie de passer ma vie avec lui, quoi.
Cet épisode de La maladie d'amour a été tourné et monté par Hélène Carbonel. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmitt le mix, chargé de production, Margot Pinel. Le titre du générique La maladie d'amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La maladie d'amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible, disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis 2 mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une 50aine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6€ sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.